Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de ce focus consacré à la Somalie. Nous nous étions quittés sur une Somalie abandonnée par les Nations Unies en 1995 après une infructueuse opération militaro-humanitaire de plusieurs années. Le pays, dépourvu d'État depuis 1991, sombrait dans le chaos, en proie aux seigneurs de guerre qui faisaient désormais ce qu'ils voulaient, rackettant la population et contrôlant les trafics en tout genre. C'est au milieu de cette anarchie que naquirent les premiers tribunaux islamiques, au milieu des années 90. Marie-France Cros.
Il n'y a plus d'État. Donc, quand on commet un délit contre vous, c'est le type qui a l'arme la plus forte qui gagne. Ça fatigue la population. Les femmes sont victimes de viols. Et en Somalie, c'est encore plus grave qu'ailleurs parce que lorsqu'une femme a été violée, elle est répudiée. On ne la considère pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui est sali et dont on ne veut plus. Donc, c'est vraiment encore plus catastrophique qu'ailleurs. Vous avez du racket, il y a des barrages partout, on vous rackette, une partie de l'argent va aux miliciens du barrage et le reste au chef de la milice. Enfin, c'est vraiment un État sans droit. Et donc, il se crée petit à petit des tribunaux qui appliquent la seule chose que tout le monde connaît, qui est la charia, la loi islamique. Et au début, il y en a quelques-uns seulement, il y en a deux ou trois dans tout Mogadiscio, qui prononcent des sentences. Bien sûr, ils n'ont pas de force pour les faire appliquer, mais comme la communauté accepte le bien fondé de la sentence et accepte le droit dont elle est issue, ça a un certain fonctionnement et ça crée un semblant de justice. Il y a quelques injustices qui sont réparées par le moyen de la loi islamique.
Les tribunaux islamiques s'appuient sur la charia, la loi islamique, dans laquelle la notion de clan n'existe plus. Une vraie petite révolution. Gérard Pougnier.
Je vais devant un tribunal qui ne va pas me traiter en fonction de mon clan, qui va me traiter en fonction de mon acte. Alors ça semble très banal pour un Européen, parce que pour nous, pour tous on dit les juridictions, les tribunaux, vous êtes un citoyen, vous avez commis un vol, vous êtes traité en fonction de votre citoyenneté. Mais là, ce n'est pas le cas. Justement, selon votre clan, vous n'êtes pas traité pareil. Donc là, la charia musulmane a un aspect progressiste parce qu'elle traite les hommes en fonction de ce qu'ils sont. Et ça a eu pas mal de succès, hein. Puis alors, surtout, elle se fait respecter à travers les clans. Parce que autrement, si vous avez commis un crime quelconque, si vous êtes... Votre clan essaye de vous... Parce que la victime n'était pas de votre clan. Comment est-ce qu'on va trouver un moyen de mettre en œuvre une décision de droit? Vous avez un clan, l'autre gars il a un autre clan, qui est-ce qui vous juge et qui est-ce qui va appliquer la peine? Avec la charia, on dit on s'en fout de ton clan. T'as fait ça, tu passes devant le tribunal, tout le monde est égal, tu reçois telle peine et on la met en application.
Derrière le besoin des tribunaux islamiques d'installer plus de justice et d'ordre au-delà du clanisme, se trouve aussi l'absolue nécessité de pouvoir faire des affaires. Quand la charia vient au secours du business, Gérard Prunier.
C'est apparu avec les commerçants. Et leur problème à eux, c'était de faire respecter les contrats commerciaux. Parce que moi, je vous dis, je vous achète un lot de 50 générateurs électriques. Et je vous les paye à temps. OK ? Vous êtes importateur. Vous avez des contacts au Japon. Vous m'achetez mes 50 générateurs. Vous me les livrez. Puis au moment de me les livrer, moi je dis, je t'avais promis tel prix, je te le donne pas, je te donne tel autre prix, qui est moins bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous allez devant quel tribunal? Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus rien. Bon, vous êtes dans la merde. Et puis, le gars qui vous l'a acheté, il n'est pas de votre clan. S'il était de votre clan encore, vous pourriez aller voir les anciens du clan,
ouais,
et puis obtenir une pression du clan qui va dire, Mohamed, tu vas payer à Hassan. Non. Vous pouvez pas, le gars, il est d'un autre clan. Donc vous êtes désespéré. Dans le commerce, il a beaucoup de problèmes à fonctionner si les gens respectent pas les contrats.
Ouais.
Donc à ce moment-là, le tribunal islamique, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, moi, je m'en fous des clans. Et puis toi, t'as signé ce papier, parce que quand même, le gars, il a fait signer un papier. Ce papier, et moi, en tant que tribunal islamique, je te dis que les contrats, ça doit être respecté. Et si tu respectes pas le contrat, ça va chier. C'est-à-dire, je vais te faire arrêter. Donc les tribunaux, ils avaient leur propre milice, avec des voitures armées, hein, les technicals, je vais t'arrêter et puis je vais obtenir l'exécution du contrat que tu respectes le prix que tu avais promis de payer à ce monsieur quand il a importé les générateurs. Et donc, vous voyez que l'utilité pour les tribunaux, donc les businessmen, ils se sont mis à donner de l'argent aux tribunaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des tribunaux étaient Habrgidir Ahir, parce que c'est des gens qui font beaucoup de business. Donc c'est eux qui ont soutenu beaucoup les tribunaux islamiques au départ, parce qu'ils voulaient avoir un système qui permettait disons le renforcement et l'exécution des contrats. Donc vous voyez, on est très loin de toutes les salades qu'on nous raconte dans les journaux, comme quoi tout ça c'est le fondamentalisme machin. Au départ, vous avez des hommes d'affaires qui disent, dans notre société clanique et où il n'y a plus d'État, il n'y a que l'islam qui va être capable de faire respecter les contrats commerciaux.
Au début, les tribunaux islamiques ne disposent presque pas de moyens matériels comme des armes pour faire respecter leurs décisions. Mais ce n'est pas grave, ils ont mieux, ils ont Dieu. Gérard Prunier.
Le type qui n'a pas respecté le contrat, on dit on va t'arrêter. Bon, bah, la question, il peut essayer de se défendre. Mais il ne se défend pas seulement contre la milice du tribunal. Ça, c'est des hommes. Il se défend contre la loi de Dieu. Et ça, c'est très grave. Il défie Dieu. On lui dit, tu vois, Dieu dit que, selon la charia, qui est sa loi, la loi divine, il y a telle et telle règle sur les contrats commerciaux, parce que c'est présent dans la charia. Bon. Toi, quand tu refuses la décision du tribunal islamique, bon, bah d'abord, on va essayer de t'arrêter, de te tirer dessus, mais ça, bon, n'importe qui peut le faire, à la limite. Mais tu vas contre Dieu. Et donc, la réprobation sociale est très forte et très grave. T'es un salaud. Tu as trahi une chose qui est sanctionnée par la loi divine.
Nous sommes en 2002. Les tribunaux islamiques sont de plus en plus nombreux. Ils décident de se regrouper et forment l'Union des tribunaux islamiques. Marie-France Cros.
À cette époque-là, en 2002, ils ne représentaient pas une force politique. Simplement, puisque c'était une structure qui existait et qui n'avait plus aucune structure et que la population était vraiment à l'abandon, c'était normal d'essayer de les unir pour essayer de créer une jurisprudence commune et pour essayer de renforcer cette structure très branlante.
Une des questions que l'on se pose en cette période post-11 septembre est de savoir si ces tribunaux islamiques sont des islamistes, des sortes de talibans Médinafrica. Pour les Américains, la réponse ne fait pas de doute.
Les États-Unis attaquent ces tribunaux en disant que... En particulier après les attentats de New York en 2001, en disant que c'est un nid islamiste, mais en réalité, ça ne sera pas prouvé jusqu'à à peu près 2004, où là, effectivement, on voit une offensive des islamistes politiques pour prendre pied en Somalie. Et très logiquement, les islamistes politiques vont d'abord tenter de rallier ceux qui se sont regroupés autour de l'islam, c'est-à-dire ces tribunaux islamiques qui assez rapidement vont se multiplier, mais on voit tout de suite, il y en a 11 à Mogadiscio pendant longtemps, et c'est 11 clans. Ils représentent 11 clans. Donc la culture somalienne ne disparaît pas pour autant.
En 2004, les tribunaux islamiques prennent plus de force. Marie-France Cros.
Mais à partir de 2004, elle reçoit certainement des financements de régions qui soutiennent l'islamisme politique. Et alors son importance tout d'un coup commence à augmenter et elle peut engager des milices. Jusque-là, essentiellement, les tribunaux islamiques s'opposaient aux exactions commises par les milices dans la pratique. Et là, elle peut engager des milices et commencer à imposer par la force l'exécution de ces sentences. Donc au début, c'est un développement, on peut dire, normal. Ça ne sert à rien de prononcer des sentences si elles ne sont pas respectées, ce qui arrivait parfois en partie, elles étaient respectées, mais parfois, elles ne l'étaient pas parce qu'on se heurtait à quelqu'un qui était armé et qui ne voulait pas céder et qui avait des soutiens. Et bon. Tandis qu'en se dotant d'une force armée, on peut faire appliquer les sentences. Ce n'est pas illogique comme évolution. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les financements viendront l'infiltration et les mots d'ordre venus de l'extérieur plutôt que nés de la société elle-même qui a créé ces tribunaux islamiques.
Un an plus tard, le poids des tribunaux islamiques est devenu trop important aux yeux des États-Unis. Ils décident d'agir. Marie-France Cros.
Fin 2005, début 2006, les États-Unis s'aperçoivent que les milices des tribunaux islamiques commencent à gagner beaucoup de terrain par rapport aux seigneurs de la guerre traditionnels. Donc, vraiment très vite, sans beaucoup de réflexion, ils organisent vite une réplique et ils commencent à financer les seigneurs de la guerre, pour qu'ils s'unissent et créent une coalition face à ce qui apparaît comme un groupe uni des tribunaux islamistes. Mais apparemment, leur stratégie est arrivée trop tard parce que ça n'empêche pas, en juin 2006, la défaite des seigneurs de la guerre financés par les États-Unis devant les milices des tribunaux islamistes. Un afflux d'argent a dû certainement susciter des disputes et donc a dû en fait affaiblir le camp des seigneurs de la guerre qui n'étaient pas nécessairement unis, mais ils ont dû se disputer après pour l'argent. Et la propagande islamiste a certainement dû profiter du fait qu'ils étaient financés par les États-Unis.
Ni les seigneurs de guerre, ni les dollars américains ne réussissent à arrêter l'Union des tribunaux islamiques qui finit par s'emparer de Mogadiscio en juin 2006, ceci avant de partir à la conquête de tout le sud de la Somalie. La charia, la loi islamique, est décrétée. Certains l'interprètent de façon un petit peu trop zélée. Ainsi, les Somaliens sont privés de Coupe du Monde. Il est interdit de suivre les matchs à la télévision. Les Somaliens ne verront pas l'ancien colonisateur italien remporter le tournoi.
Dans ce qu'on appelle des salles de cinéma à Mogadiscio, qui sont en fait des lieux publics où fonctionne une télévision, les gens se regroupaient pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. Et les islamistes, qui n'étaient pas à cette époque-là unis sur la doctrine, vous avez certains qui font du zèle. Alors il y a certains zélés qui sont venus et qui ont fait fermer les télévisions et chasser les gens qui regardaient les matchs, ce qui a provoqué le mécontentement. Dans d'autres salles, ils ont fermé les salles parce qu'on regardait des films d'amour indiens qui sont très appréciés dans cette partie d'Afrique.
Parmi les autres choses interdites figure le khat. Qu'est-ce que le khat, Marie-France Cros?
C'est une drogue, c'est une feuille qu'on mâche et qui abrutit celui qui la mâche. Et c'est tellement culturellement répandu dans la corne de l'Afrique que l'heure d'arrivée de l'avion qui amène le khat, parce que ça doit se consommer frais, vous ne pouvez pas le sécher ou le conserver, ça doit être du jour. On le cueille au petit matin. Je pense que c'est dans les montagnes kenyanes qu'on trouve celui de meilleure qualité. Ce sont des petites avionnettes qui le transportent vers la Somalie, Djibouti et dans diverses villes de Somalie. Et l'heure de l'avion est tellement connue qu'à peu près, par exemple, à Djibouti, une heure avant, tout s'arrête parce que tout le monde se prépare à aller faire son achat. Et à partir du moment où on commence à mâcher, vous voyez toute l'activité qui s'arrête parce que c'est une drogue abrutissante. Et alors, ça vous aide à vous endormir. La nuit passe comme ça et le lendemain, vous reprenez vos activités.
L'interdiction du khat est beaucoup plus difficile à avaler pour la population de Mogadiscio. Pas seulement pour une question de détente. Christophe Hayat, veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de l'enregistrement.
Le khat est consommé par une partie relativement... Enfin, je ne vais pas dire minoritaire de la population, c'est difficile à évaluer, mais disons un homme sur deux, peut-être un sur trois.
Ah ouais.
Parce que ça coûte cher et que ce sont souvent les anciens miliciens, les hommes d'affaires qui khatent. En revanche, le khat fait vivre une grande partie de la population parce que sont liés au khat tout un tas de petits métiers, transporteurs, parce que le khat arrive sur un aéroport du Kenya. Enfin, le khat arrive du Kenya en avion sur un aéroport qui est à une soixantaine de kilomètres de Mogadiscio. Donc il faut transporter ça, il faut des gardes armés pour éviter de se faire voler la cargaison, il faut des gens qui trient à l'arrivée, qui lavent les feuilles et puis qui les nouent en bottes et qui vont les distribuer sur les marchés où tout un tas de énormément de femmes assez pauvres les vendent au détail et font un bénéfice relativement conséquent. Une vendeuse de khat qui me racontait qu'elle gagnait jusqu'à une trentaine de dollars par jour, ce qui est beaucoup et ce qui permet de faire vivre toute une famille. En interdisant le khat, les islamistes se sont privés, pour le coup, du soutien d'une partie de la population de Mogadiscio, qui d'un coup a trouvé ça extrêmement saumâtre de se retrouver du jour au lendemain sans emploi.
Si les tribunaux islamiques se montrent excessivement rigoureux à travers toute une série d'interdictions qui déplaisent, c'est aussi la rigueur de leur pouvoir qui amène une large satisfaction parmi la population usée par 15 années de chaos et de violence. Marie-France Cros.
En général, les gens étaient quand même très contents parce que les milices des tribunaux islamiques recevaient une formation idéologique. Essentiellement, on leur apprenait le Coran et à ne pas battre la population sans raison et à se servir d'une arme pour ceux qui ne l'avaient pas encore appris. Et en gros, ça a eu un effet très net de diminution de l'insécurité pour la population. Et donc, en gros, le contentement était très important.
Juin 2006, l'Union des tribunaux islamiques est au pouvoir à Mogadiscio. Il commence à envahir progressivement le sud de la Somalie au détriment des seigneurs de la guerre. Le développement d'un régime islamiste en Somalie inquiète les États-Unis, mais aussi le voisin éthiopien. Que faire ? Il existe depuis quelques années des institutions somaliennes de transition, avec un gouvernement et un parlement, fruit de négociations entre les clans. Marie-France Cros.
Depuis la chute de Siad Barré, on va de conférences de réconciliation en gouvernement sans pouvoir, et un xième gouvernement sans pouvoir avait été formé au Kenya, avec le patronage de l'IGAD, qui est une association régionale qui est faite pour lutter contre la sécheresse, mais qui de facto est devenue une association politique d'État de la région, dont fait partie la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya notamment. Avec le patronage de l'IGAD a été formé d'abord un parlement au Kenya, un parlement somalien qui a été formé au Kenya, et ce sont en gros des seigneurs de la guerre qui ont désigné des représentants. Ce parlement a fini par désigner un président qui lui-même s'est choisi un premier ministre. Tout ça s'est appelé institution provisoire et a séjourné au Kenya de 2004 à 2006. Ils ne sont pas arrivés à mettre le pied en Somalie avant 2006. Ça a été extrêmement difficile. Ils ont essayé à Mogadiscio, impossible, parce qu'on ne voulait pas d'eux. Et puis, parce qu'il y avait des rivalités entre clans, comme d'habitude, et qu'ils n'arrivaient pas, ils n'avaient pas de force.
C'est les mêmes clans qui formaient le gouvernement.
Tout à fait, les mêmes, oui. Vous aviez des chefs de guerre qui, à Mogadiscio, combattaient l'arrivée du gouvernement de transition et qui siégeaient en même temps au Parlement de transition. Donc, l'incohérence politique n'est pas un problème pour les clans somaliens, parce qu'ils obéissent en réalité à d'autres critères qui sont les intérêts de survie du clan. Et donc, toutes ces institutions de transition ont fini par s'installer en Somalie, mais pour le faire, ils ont dû choisir une toute petite ville qui s'appelle Baidoa.
Février 2006, le gouvernement de transition s'installe en Somalie. Mais cela ne change pas grand-chose. Marie-France Cros.
Toutes ces institutions de transition n'avaient pas de pouvoir en dehors de Baidoa. Ils disaient avoir une force militaire qui était, en théorie, les forces militaires des seigneurs de la guerre dont ces institutions de transition sont censées être issues. Mais en réalité, il y avait sans arrêt des bagarres entre chefs de la guerre. Ils étaient attaqués tout le temps et ils n'avaient pas de pouvoir. Quand les tribunaux islamiques prennent le pouvoir à Mogadiscio, ils décident de renverser ces fantoches et donc, petit à petit, les milices des tribunaux islamistes descendent de Mogadiscio, qui est à peu près au centre de la Somalie, vers le sud, et conquièrent ville après ville. Les forces des institutions de transition ne leur résistent absolument pas parce qu'elles sont désunies, n'ont pas de morale, alors que les troupes des islamistes obéissent à une idéologie. Elles ont le moral parce qu'elles sont persuadées de faire quelque chose de bien pour leur pays, tandis que les autres continuent à se disputer. Enfin bref, entre juin et la fin de l'année 2006, les tribunaux islamiques avaient pratiquement pris le pouvoir dans tout le sud de la Somalie.
Cette fois-ci, la situation est critique, pour les États-Unis notamment. Plus personne en Somalie n'est en mesure de s'opposer aux tribunaux islamiques, et certainement pas le gouvernement de transition. Il faut donc une intervention extérieure. L'Éthiopie entre en scène. Marie-France Cros.
Les États-Unis ont vu leur inquiétude augmenter et comme ils ont de très bons rapports avec l'Éthiopie qui veut être leur principal allié dans la région, l'Éthiopie qui a toujours eu des problèmes avec la Somalie, qui a peur de la revendication somalienne sur son Ogaden qui n'est pas terminée, qui a très peur de voir, elle avait très peur de voir un gouvernement s'installer ayant du pouvoir, s'installer en Somalie, un gouvernement qui lui serait hostile. Donc, pour l'Éthiopie, c'était assez logique de dire « il vaut mieux un gouvernement à notre botte qu'un gouvernement qui nous est hostile. La Somalie est trop dangereuse, elle va réattaquer l'Ogaden dès qu'elle sera forte. » Donc, très logiquement, l'Éthiopie, qui avait soutenu l'initiative pour créer ce gouvernement, ces institutions de transition, est entrée d'abord non officiellement en guerre en Somalie, d'abord en envoyant des instructeurs aux institutions de transition, mais ça n'a pas suffi, après en envoyant des troupes non reconnues, et puis à Noël, en reconnaissant son entrée massive en Somalie.
L'armée éthiopienne entre officiellement en Somalie le jour du réveillon de Noël, le 24 décembre. Une entrée massive avec plus de 12 000 soldats, assistée par de l'artillerie lourde, des tanks et l'aviation, qui bombardent notamment l'aéroport de Mogadiscio. Aux côtés de l'armée éthiopienne, les milices du gouvernement de transition. La résistance des tribunaux islamiques est incroyablement brève. 4 jours après le début des combats, la capitale Mogadiscio tombe. Début janvier, le dernier bastion des islamistes, le port de Kismayo, à l'extrême sud, est abandonné à son tour. Comment expliquer une résistance aussi faible ? Il y a tout d'abord l'armée éthiopienne, autrement mieux organisée et équipée que les milices islamistes. On peut aussi penser que les tribunaux islamiques ont préféré refuser un combat perdu d'avance, ceci pour mieux revenir plus tard sous forme de guérilla comme en Irak. Les miliciens des tribunaux islamiques sont en effet retournés à leur vie civile du jour au lendemain, comme ils en étaient venus quand, en juin, ils s'étaient enrôlés dans les tribunaux islamiques. Enfin, on peut dire que l'ancestral clanisme a une nouvelle fois eu le dernier mot. Gérard Prunier.
C'était essentiellement des gens qui étaient de la famille de clan Hawiye, du clan Habrgidir et du sous-clan Aïr. Et 80% des gens des tribunaux islamiques appartenaient à ce sous-clan. C'est d'ailleurs une des raisons de son échec. Une des raisons pour lesquelles il a été facile, l'armée éthiopienne, de les balayer, parce que beaucoup de gens ne se sentaient pas de solidarité, pour des raisons claniques, avec les gens des tribunaux islamiques.
Les tribunaux islamiques, qui avaient toujours voulu dépasser le clanisme, étaient donc eux-mêmes inscrits dans cette organisation. Ceci a précipité leur chute. Pour la première fois depuis un peu plus de 2 ans, le gouvernement de transition s'installe à Mogadiscio avec l'aide de l'armée éthiopienne. Son président est Abdullahi Youssouf. Qui est-il, Marie-France Cros?
Le président qui a été choisi par le parlement de transition est l'ancien président du Puntland. Vous avez, pendant les années de chaos en Somalie, vous avez 2 entités qui ont déclaré leur autonomie. C'est le Somaliland qui a déclaré son indépendance et qui n'est pas reconnu et où les choses se passent plutôt bien. Et puis un peu après, en 98, vous avez le même genre de processus qui s'est déroulé au Puntland, où ça s'est déroulé très mal. Et où celui qui avait pris le pouvoir, Abdullahi Youssouf, était un allié de l'Éthiopie. Il a demandé plusieurs fois à l'Éthiopie d'intervenir au Puntland en sa faveur pour lorsque l'équilibre des forces lui était défavorable. Et c'est donc un homme de l'Éthiopie. C'est ce monsieur-là qui a été choisi par le Parlement de transition au Kenya pour être le président. Et lui-même s'est choisi un Premier ministre qui n'a aucune base politique. Comme ça, il est sûr d'être fort en haut de la pyramide.
Très vite, début janvier, l'insécurité revient à Mogadiscio. Les soldats éthiopiens, haïs par la population somalienne, se font le plus discret possible. Ils sont cependant victimes d'attaques. Le 23 janvier, pour apaiser la situation, une partie des troupes éthiopiennes rentre au pays. Mais une partie reste. Christophe Ayat.
Les Éthiopiens savent que plus ils prolongent leur présence, et plus ils se heurteront à une résistance farouche et désastreuse. Du type occupation de l'Irak par l'armée américaine. La différence, c'est que je pense que l'Éthiopie connaît bien mieux le terrain somalien que les États-Unis ne connaissaient l'Irak. Donc ils sont très conscients de ça, et c'est pour ça qu'ils cherchent à donner l'impression d'un mouvement. Maintenant, s'ils se retirent tous d'un coup, ils affaiblissent terriblement le gouvernement de transition, qui ne dispose pas réellement de troupes, enfin qui a des troupes, mais extrêmement faibles et maigres, et qui pourrait très très vite être en difficulté, se fragmenter, et on retournerait à une sorte de fragmentation du pays où chaque ministre ou chef de clan ou chef de guerre se replierait sur sa zone pour s'assurer une base sûre. Donc les Éthiopiens ont entamé le retrait pour un peu forcer la main à l'Union africaine qui a promis d'envoyer des troupes.
Nombreux sont les Somaliens qui craignent qu'on en revienne à la situation d'avant juin 2006, c'est-à-dire au chaos et aux exactions des seigneurs de la guerre. Ceux-ci sont-ils déjà en train de réoccuper le terrain ? Christophe Ayat.
Les seigneurs de guerre n'avaient pas réussi, et je pense n'ont toujours pas réussi, à retrouver leur influence. Ça prend du temps de recruter à nouveau des hommes, d'acheter des armes, de se constituer un fief, et je pense qu'ils sont tenus à l'œil assez sévèrement par le gouvernement de transition. Mais le gouvernement de transition lui-même ne contrôlait pas extrêmement bien la ville et ça se dégrade. C'est-à-dire que au surlendemain même de la chute des tribunaux islamiques, les gens ont recommencé à se promener armés, discrètement, mais armés, parce qu'il y a une grande insécurité due au banditisme. Hélas, pour le coup, ce n'est pas du tout politique, mais il y a On a recommencé à voler des voitures à la pointe du pistolet ou du fusil.
Les habitants de Mogadiscio se réarment donc en prévision d'un retour de l'insécurité. Pour ce faire, ils se rendent au marché d'Ertokté, que Christophe Hayat, envoyé spécial de Libération à Mogadiscio, nous décrit.
C'est un endroit assez impressionnant où on débouche comme ça d'une ruelle et puis on se trouve dans une rue où il y a des étals de cartouchières, des munitions, des RPG, des kalachnikovs. Tout ça se passe dans une atmosphère assez lourde, un peu tendue. Et les gens viennent faire leur marché là et essayent même sur place le matériel. Donc ça donne beaucoup de... Ertokté, ça veut dire en fait les tireurs en l'air, les tireurs dans le ciel. Parce qu'effectivement, on essaye les kalachnikovs, notamment en tirant en l'air. Ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, c'est que l'un des couloirs d'approche de l'aéroport international de Mogadiscio passe par là et beaucoup de compagnies aériennes sont un peu inquiètes à l'idée de passer au-dessus de ça.
Vous devez être nombreux à vous demander à quoi ressemble Mogadiscio. Description de Christophe Hayat.
Ben, Mogadiscio, c'est une ville détruite, plus encore peut-être que Grozny. Le centre-ville a énormément souffert des très violents combats de 91-92 et vraiment réduit à l'état de ruine. Il y a quelques réfugiés ou déplacés qui vivent là-dedans. Et ce centre, qui était totalement inaccessible jusqu'au mois de juin, il est devenu, lorsque les tribunaux islamiques avaient pris le contrôle de la ville, puisqu'ils avaient chassé les miliciens qui vivaient un peu dans ces quartiers malfamés, et nettoyé les montagnes d'ordures qui s'y étaient accumulées au bulldozer. Donc c'est une ville étonnante. Enfin, ce vieux centre italien a un peu des aspects de presque de Pompéi, puisqu'on peut y lire les différentes strates ou géologiques de la guerre civile en Somalie. Le restant de la ville est en meilleur état, évidemment, mais enfin, bon, ce n'est pas très brillant, quoi. Il y a très peu de bâtiments qui ne portent pas un impact de balles ou des dégâts, et ne serait-ce ou alors qui ont été entretenus, parce que puisqu'il n'y a plus d'État en Somalie depuis 1991, il n'y a plus non plus de voirie, d'entretien, de réparation des routes. Donc c'est une ville qui est dans une situation extrêmement difficile et où la vie quotidienne est quasiment une sorte de combat.
Nous avons également demandé à Christophe Hayat si les pénuries alimentaires étaient fréquentes à Mogadiscio.
Non, à Mogadiscio même, il n'y a pas trop de problèmes d'approvisionnement, en tout cas lorsqu'il n'y a pas de combat. Parce que les campagnes alentour fournissent de quoi se nourrir. Et aussi parce que le port a été rouvert, le port en eau profonde a été rouvert l'été dernier, toujours par les islamistes. Et depuis, le programme alimentaire mondial a un accès beaucoup plus facile par bateau, où il peut amener des grosses cargaisons et entreposer de grosses cargaisons de vivres pour alimenter la ville. En revanche, lorsqu'on sort de Mogadiscio, c'est là que les problèmes commencent et c'est là que la population souffre le plus.
Les troupes éthiopiennes ne pourront pas rester éternellement. Le gouvernement des transitions est beaucoup trop faible pour garantir l'ordre. Il est donc demandé l'intervention d'une force de l'Union africaine. Un contingent d'au moins 2 000 hommes serait nécessaire. Cela coûte évidemment beaucoup d'argent. L'Union européenne, par la voix de son commissaire à la coopération et au développement, Louis Michel, est prête à participer de façon limitée. Cette aide, même modeste, est conditionnée par Louis Michel à une nouvelle grande conférence de réconciliation entre toutes les parties. Une réconciliation qui devra également incorporer les islamistes.
L'expérience de 6 mois des tribunaux islamiques a laissé quand même une empreinte. Ça a été une expérience à prendre en compte. Qui a été qui a échoué par certains côtés, mais qui a été plutôt un succès par d'autres, et on ne peut pas en faire fi. C'est pour ça que l'Union européenne cherche absolument à forcer une sorte de réconciliation entre les islamistes modérés pour ne pas se retrouver dans 6 mois, 2 ans, 3 ans avec le nouveau un problème identique et une résurgence d'une rébellion de type islamiste qui menacerait à nouveau ce gouvernement. Il faut que l'actuel gouvernement de transition fasse une place aux gens, en tout cas aux plus modérés des tribunaux islamiques qui ont fait leur preuve dans leur capacité à gérer Mogadiscio et même une partie de la Somalie. Somalie.
L'émergence d'une nouvelle Somalie ne nécessitera pas seulement une entente entre islamistes et représentants des clans et seigneurs de la guerre. Christophe Hayat.
Le problème actuel, c'est qu'il y a trois Somalies. Tant qu'on ne donnera pas une perspective à chacune de ces trois Somalies, on ne saura, la situation au sud ne se calmera pas, parce qu'elle est aussi la conséquence directe de cette partition de fait. Vous avez au nord un quasi-État indépendant, le Somaliland, qui sert de porte de sortie, notamment à l'Éthiopie, qui a besoin de diversifier ses accès maritimes. Donc le Somaliland est un peu entretenu dans ce petit statut d'État fantôme par l'Éthiopie, mais l'Éthiopie n'a pas envie non plus de reconnaître le Somaliland comme un État indépendant et ne fait rien pour. Donc il y a déjà le problème du Somaliland. Vous avez au centre du pays le Puntland, qui lui est une sorte de province autonome sous influence du président Abdoulaye Youssouf, qui se garde cette zone un peu comme un fief et qui ne veut pas fondre le Puntland dans l'ensemble somalien, parce qu'il se dit, si les choses tournent mal, eh bien je pourrais toujours retourner au Puntland. Ouais. Et puis vous avez enfin le sud de la Somalie, qui est la région la plus violente, la plus instable et la plus difficile à discipliner, et qui légitimement dit nous ne désarmerons pas, et c'est un des grands enjeux des mois à venir, nous ne désarmerons pas tant que le Puntland n'aura pas désarmé, puisque le sud de la Somalie est principalement peuplé de Hawiyeh et le Puntland principalement peuplé de Darod.
Il n'y a plus eu d'État somalien depuis 15 ans. On vous a tant parlé de l'importance des clans, des sous-clans, etc. Est-ce que, comme on se pose ici régulièrement la question vis-à-vis de la Belgique, est-ce que la Somalie veut encore dire ou a jamais voulu dire quelque chose pour les habitants de cette région ? Gérard Prunier.
Tous ces gens-là, quel que soit leur clan, se sentent avant tout somalis. Mais donc vous avez une espèce de hiérarchie des activations d'identité sociale. Je suis à Calgary, je suis somali. Je suis avec mes copains à Calgary dans un café. Ah, je suis Issac, ou je suis Hawiyeh, ou je suis Dolbahante. Je suis en pays Hawiyeh, et moi-même je ne le suis pas. Alors là, je vais être clairement, par exemple, Darod. Je suis dans le pays Darod, mais je suis du sous-groupe Darod, par exemple, des Warfangeli ou des Ogaden. Alors là, à ce moment-là, par rapport à d'autres gens d'Arod comme moi, je vais dire je suis Warfangeli ou je suis Ogaden. Bon, si je suis Ogaden, je suis chez moi, en pays Ogaden. Mm-hmm. Ah, je dis, j'appartiens au rare machin, ou au rare, c'est-à-dire le lignage Trucmuche. Mm-hmm. Bon, parce que tout le monde est Ogadeni comme moi. Donc il faut que je me différencie par rapport aux autres qui sont à 90% comme moi. Donc vous voyez, vous avez une hiérarchie descendante de l'organigramme.
Le mot de la fin reviendra à notre grand spécialiste Gérard Prunier, une conclusion qui éclaire on ne peut mieux la situation. Nous lui avons demandé de définir en quelques mots le Somalie. Voici sa réponse. On se retrouve le mois prochain, n'oubliez pas que vous pouvez réagir sur le blog de Focus, accessible à partir de lalibre.be.
Hyper démocrate jusqu'au point de l'anarchie. Si vous voulez, je vous donne une anecdote pour vous expliquer ça. Il y a quelques années, c'était encore sous le régime de Siad Barré, j'avais un rendez-vous avec l'ambassadeur de Somalie ici à Paris. Et puis il me dit on va aller déjeuner. Donc on monte dans sa voiture et puis on était assis à l'arrière et le chauffeur assis à l'avant était un Somali. Puis je discutais avec l'ambassadeur et on parlait évidemment de la politique parce que ça commençait déjà à pas aller très bien, hein, c'était dans les années 80. Et puis le chauffeur se retourne et dit « Mais non, mais ça va pas du tout. Là, non, mais vous dites des conneries. » Et puis il commence à apostropher l'ambassadeur et à lui dire « Non, non, mais ce que tu dis là, ça va pas. » Et l'ambassadeur, au bout de 5 minutes, passe du français au somali. Moi, je comprenais plus rien. Et puis il s'engueule avec son chauffeur sur la politique. Est-ce que vous imaginez l'ambassadeur des États-Unis en train de s'engueuler avec son chauffeur américain sur M. Bush. C'est-à-dire, c'est des hyper-individualistes, hyper-démocrates, c'est des anarchistes. Tous les nomades, les grands nomades sont des anarchistes. Prenez les Mongols, prenez les Indiens des plaines en Amérique du Nord avant l'arrivée des Blancs, ou les Arabes d'avant l'Islam. C'est tous, il n'y en a pas un seul qui a un État. Toutes les tribus nomades sont automatiquement anarchistes pour une raison très simple. Ils bougent tout le temps. Comment voulez-vous qu'il y ait un État? Un État, ça présuppose de rester le cul posé au même moment, dans le même endroit, pendant un certain temps, de dégager un surplus économique. Ce surplus économique est utilisé pour créer des structures juridiques, politiques, administratives. Si vous voulez, la question, c'est que c'est tellement inscrit dans les mentalités que même quand vous êtes en ville et vous êtes tout ce qu'il y a de plus sédentaire, vous gardez cette mentalité-là.
Ouais, c'est ça. Mmh.
Mais là, dans ces endroits-là, il n'y a pas de sens de l'État. C'est des gens qui ont vécu dans des formes d'organisation tribale ou clanique jusqu'à la période moderne.